La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Angers. On est ensemble pendant une demi-heure pour discuter de l'actualité locale. Et ce soir, on démarre avec une interview de Léo, qu'il a réalisée un peu plus tôt dans la journée. C'était avec Florence Hartheiser, directrice du SUMS, le service universitaire qui propose des services de santé gratuits à destination des étudiantes et étudiants. En deuxième partie d'émission, on vous propose une interview réalisée par nos camarades de SILAB à Rennes. Paul a discuté avec Faustine Sternberg, membre de l'association SPLAN et journaliste. SPLAN, c'est la première ONG d'enquête journalistique en Bretagne et la Bretagne est bien connue pour son lobby agroalimentaire qui ne facilite pas la tâche aux journalistes comme on a pu le voir par le passé. Je vous propose qu'on écoute tout ça sans plus tarder et je vous souhaite une très bonne émission.
Bonjour Florence, vous êtes directrice du SUMS de l'Université d'Angers. Alors le SUMS, c'est le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé. Il y en a environ 60 à peu près, répartis sur tout le territoire français. Florence, vous êtes médecin généraliste et vous êtes arrivée ici à la direction du SUMS au mois de septembre dernier. Qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer et à diriger cet organisme ?
C'était dans l'objectif de prendre soin des étudiants, qui était déjà un public que je rencontrais évidemment en cabinet libéral, mais qui est toujours un public très intéressant parce que pour les médecins, parce que très riche au niveau médical. Il y a toute une éducation à faire pour le reste de leur vie, en fait, hein, en matière de promotion de la santé, de savoir prendre soin de soi. C'est souvent un passage, en fait, où... La responsabilité de prendre soin de soi passe des parents à l'étudiant, justement, et c'est un moment crucial pour les accompagner. Donc c'était un des motifs qui m'a poussé à venir ici et puis à m'investir dans une structure où on est en pluridisciplinaire, en fait, avec beaucoup de professionnels.
Le SUMS, on peut le résumer en quelques mots, rapidement, le but c'est d'assurer la bonne santé des étudiants par des bilans et des consultations en proposant médecine générale, psychologie, psychiatrie, diététique, gynécologie et même un service social. Il est gratuit pour les étudiantes et étudiants de l'université et les écoles qui y sont conventionnées et assisté par des étudiants dits relais santé. Vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, alors ce sont une dizaine d'étudiants en fait qui sont recrutés l'année universitaire précédente pour la rentrée, qui ont ensuite avant la rentrée une semaine entière de formation sur la promotion de la santé publique et les diverses thématiques qu'on aborde au cours de l'année. Et puis au cours de l'année, alors habituellement c'est les étudiants que vous pouvez croiser sur les stands de prévention de la santé. Évidemment cette année c'est un petit peu différent, nos stands sont virtuels, ils sont sur Instagram par des posts. Ils sont aussi sur des points clés type notre distribution de colis alimentaires chaque semaine qui nous permet en fait de faire du repérage d'étudiants en difficulté, alors difficultés sociales, psychologiques ou autres, mais voilà, qui permet de faire vraiment un lien par les pairs en fait. Et ça c'est très important parce que les étudiants, on voit qu'ils sont beaucoup plus à même à discuter et à engager une discussion qui est peut-être moins formelle qu'avec un professionnel de santé.
Il y a d'autres champs de compétences au SUMS, des partenariats avec des organismes du milieu universitaire, je ne sais pas, le collectif Luciole ou Réglons ça peut-être ?
Oui, alors tout ça est coordonné en fait par la vie des campus, hein, qui est une vraie structure, une partie de l'université et qui coordonne tout ça et qui est beaucoup en lien effectivement avec les associations étudiantes. Donc oui, vous l'avez dit, Luciole, Réglons ça, d'autres, hein, on est aussi beaucoup en lien, nous, alors dans la prévention du risque festif souvent, avec les BDE, pour leur donner en fait les moyens de faire de la prévention pendant l'organisation de leur fête. On a des petites valises à roulettes qu'on leur donne avec tout le matériel qu'il faut et voilà, ils viennent le chercher juste avant et puis nous, on le complète ensuite. Voilà, ça se passe assez bien en général.
Comment vous avez redéployé votre activité dans le contexte sanitaire depuis bientôt un an, tant au niveau du personnel que du suivi des étudiantes et étudiants ?
Alors, on a un rythme de consultation en présentiel qui est un peu plus lent que d'habitude, tout simplement pour pas avoir une salle d'attente pleine quotidiennement. Mais les consultations en présentiel continuent pour tous les professionnels de santé quasiment. Et au-delà de ça, on est beaucoup vers l'aller vers les étudiants. Donc, on propose des choses en ligne, des choses en groupe sur Discord, par exemple. Alors, ça peut être de la séance de relaxation jusqu'à juste simplement proposer un jeu de société, d'ailleurs, avec nos étudiants relais santé, justement. justement, pour recréer un lien social et un esprit un peu de promo qui pourrait manquer aux étudiants. Voilà, donc on est beaucoup vers l'aller vers et plus vers du prendre soin de soi de plus en plus.
Vous avez eu des fois des retours de la part de maîtres de conférences ou de personnel qui se disaient inquiets de l'état de santé de leur promotion. On avait des fois des profs qui disaient « je suis inquiet pour tel élève qui ne met plus sa caméra, qui ne vient plus en cours, ce genre d'éléments ».
Oui, alors soit ponctuellement, individuellement pour un étudiant, soit pour un groupe parfois même. Donc les scolarités, en fait, ont la possibilité de revenir vers nous et vers notre équipe de prévention collective pour pouvoir faire des actions ciblées. C'est justement le but de la prévention collective, c'est de cibler sur certaines promos certains problèmes. Alors parfois, c'est un groupe de 10 où on a discuté de problématiques de sommeil, par exemple. Ça, on a beaucoup en ce moment. Donc voilà, on essaye vraiment de cibler. Donc les scolarités reviennent vers nous, soit pour un étudiant en particulier à qui on propose un rendez-vous individuel, soit pour un groupe, auquel cas on fait une action collective.
Au-delà du sommeil, il y a aussi tout ce qui concerne, j'imagine, lien social, décrochage scolaire.
Oui, alors ça, on en a beaucoup. L'isolement, c'est le mot qui revient le plus. L'anxiété aussi de ressortir de chez soi. Ça, on a énormément d'étudiants qui se sont finalement habitués à rester chez eux. Et là, de ressortir pour aller faire un examen ou aller à un cours en présentiel, il y a une vraie anxiété qui se crée. Et il n'y a pas à en culpabiliser, mais c'est quelque chose qui existe. C'est un phénomène qui est très présent là parmi les étudiants et pour lequel il ne faut pas hésiter à venir consulter parce que nous, on a des outils après pour vous aider à gérer cette anxiété, ce stress.
Vous pensez qu'il y a justement beaucoup d'étudiants, des étudiants qui n'ont pas osé forcément venir vers vous ?
Oui, alors ça, on remarque qu'il y a beaucoup de retard à la consultation, notamment sur les motifs psychologiques. Souvent, les étudiants nous disent « là, maintenant, c'est plus possible, donc je viens chercher de l'aide ». Mais en fait, on voit bien que 3 mois avant, il y avait déjà moyen de faire quelque chose. Et souvent, on arrive sur des suivis psychologiques longs, alors qu'à la base, on aurait pu donner des outils de gestion, on aurait déjà pu agir. Donc ça, il ne faut vraiment pas hésiter à venir consulter. Et souvent, le discours des étudiants, c'est « je ne me trouvais pas assez grave » ou « je ne me trouvais pas suffisamment en difficulté peut-être par rapport à d'autres alors que nous on préfère que voilà il y a une première consultation qui ne mène pas forcément un suivi mais simplement qui est déjà un premier contact et une première orientation vers différents professionnels pour pouvoir gérer en fait la suite de
c'est faire en sorte finalement que le SUMS ne soit pas un dernier recours mais un des premiers outils mobilisés pour s'en sortir peut-être plus rapidement.
C'est ça, parce que notre mission première, en fait, c'est la prévention, en fait. Donc, dès qu'on se trouve un peu en difficulté, même si on ne sait pas exactement quelle est notre difficulté, mais on sent que c'est plus difficile ces derniers temps, nous, on propose, en fait, de faire un point avec une infirmière ou un médecin dans une consultation dite de première écoute, où là, vraiment, on va faire le point sur toutes les difficultés. Ça peut être social, ça peut être psychologique, ça peut être physique, ça peut être plein de choses. Ça peut être juste simplement se poser des questions sur son orientation universitaire aussi. Voilà. Et donc, nous, on connaît bien les structures, on sait vers qui orienter. Donc, c'est vraiment pas un problème de pas savoir pourquoi on consulte, en fait. Simplement de dire, je me sens en difficulté, ça suffit. C'est un motif déjà de consultation.
Vous avez déploré un manque de moyens ou les effectifs que vous aviez déjà au sein du SUMS ont suffi pour quadriller la demande qui, évidemment, a beaucoup augmenté ces derniers mois.
Bon, alors cette demande, notamment en psychologie, elle augmente sur les dernières années. Et là, évidemment, elle a fait un pic. Donc, en fait, ça révèle un problème sous-jacent. Donc, on était déjà en augmentation d'effectifs, notamment des psychologues et des médecins. Là, on poursuit un peu cette augmentation d'effectifs, et notamment au niveau des psychologues, puisqu'on a eu des financements donc, du ministère et même un financement de la région. Donc, on a pu étayer quand même pas mal les choses. Est-ce que ça suffit ? Non. Là, on est en gros à un psychologue. Trois psychologues pour 30 000 étudiants, il en faudrait un pour 3 000 normalement. Donc on est très très loin du compte, on a quand même augmenté pas mal les effectifs. Là on a un dispositif dit de chèque d'accompagnement psychologique qui va aussi nous aider, même si la mise en place là se fait attendre. Mais ça va nous aider aussi, peut-être pour des suivis plus courts justement, à proposer ça aux étudiants. Évidemment, ceux qui auront besoin d'un suivi plus long, ils seront toujours bienvenus au sein du service.
Ça fait maintenant plusieurs semaines que les problèmes de santé et de précarité étudiante font couler beaucoup d'encre dans la presse. Et à l'échelle locale, on a des étudiants ici à Angers qui ont témoigné de leurs difficultés. On vient d'en parler, décrochage scolaire, voire abandon d'études, renfermement sur eux-mêmes, isolement. Le pessimisme s'est vraiment abattu sur le milieu universitaire, pas forcément aidé en ce moment avec les relations entretenues avec le ministère. on se dirige vers des conséquences dramatiques. Est-ce qu'on veut parler, comme on a entendu, d'une génération perdue où il est encore trop tôt pour tirer un premier bilan un an après le début du premier confinement ?
Alors, on en parle beaucoup, mais à raison. Hein. Ce n'est pas toujours le cas, mais là, à raison, vraiment. Alors, parler de génération sacrifiée ou perdue, j'espère pas. C'est un peu tôt, effectivement, pour avoir un recul. Mais vraiment, j'espère pas. Simplement, le message, ça va être vraiment de consulter tôt. Et même si c'est pour un décrochage, en fait, c'est vrai que nous, on a l'étiquette un peu santé. Mais finalement, voilà, on peut proposer d'autres choses. On peut faire un lien vers le tutorat qui a été mis en place aussi à l'université pour justement recréer un étayage un peu méthodologique, pédagogique et un lien social, en fait, parce que ce tutorat, il peut se faire en présentiel aussi. Et ça permet d'avoir un point régulier dans la semaine, en fait, pour sortir de chez soi et revoir, mais en petit groupe, sans forcément se mettre dans un amphi. Voilà. Donc, c'est un peu tôt pour faire le bilan, mais génération perdue, non, j'espère vraiment pas.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en parallèle de cette prise de conscience des difficultés des jeunes de façon globale, on a aussi vu émerger des discours très culpabilisants des jeunes jamais satisfaits de ce qu'on leur donne, d'être fragiles psychologiquement. C'est un phénomène nouveau qu'on observe ou ça s'est déjà produit par le passé ou c'est vraiment arrivé avec les plateaux de télévision un peu café du commerce ?
Les étudiants, c'est une cible un peu facile, malheureusement. Ils ont aussi été accusés de la seconde vague, alors qu'on avait très bien prédit ça dès le printemps, que vu la courbe épidémiologique et vu que en hiver, forcément, on est plus en intérieur, il allait y avoir une seconde vague. Et malgré ça, on a quand même accusé les étudiants d'avoir trop fait la fête à la rentrée. Honnêtement, alors, nos patients ne nous racontent pas tout, mais quand même, voilà, il y a un secret médical, donc ils n'hésitent pas trop. Ça a été très ponctuel, les fêtes de rentrée, enfin, il n'y a vraiment pas eu un phénomène comme on aurait pu s'attendre à vraiment énormément de fêtes. Au contraire, ils ont été très responsables et malgré ça, ils sont accusés en fait, de cette seconde vague qui était inévitable. Donc il y a aussi un sentiment d'injustice, je trouve, parmi nos étudiants, d'avoir vraiment bien respecté et de payer finalement un lourd tribut à cette crise et finalement d'être quand même pointé du doigt. Donc il y a un gros sentiment d'injustice. Ouais.
Et c'est quelque chose qui joue forcément aussi sur leur morale personnelle.
Mais évidemment, oui, évidemment, ils ont tellement fait d'efforts voilà, ces efforts-là, ils ne sont pas reconnus. Et alors que, encore maintenant, beaucoup sont en distanciel, dans des chambres qui sont souvent très petites, voire insalubres, parce qu'on a quand même eu un gros problème de logement à Angers en particulier, sur des logements étudiants dès la rentrée. Donc, même encore maintenant, y a encore des étudiants qui sont dans des très petites chambres, voire des chambres. Qui sont à la limite de la salubrité et il faut le dire, rester toute la journée en courant distanciel dans un logement qui n'est pas confortable, et forcément, là, on peut mettre toutes les consultations de psychologues du monde à côté, et le moral, il ne va pas aller mieux tant qu'on est dans cette configuration-là, c'est certain.
Et avec en plus la perspective d'y rester, parce qu'on a les L1 qui ont repris un petit peu les cours, mais les deuxième, troisième années et les masters déjà ne peuvent pas reprendre les cours en présentiel, ce qui est quand même dommage pour la fin d'une scolarité, peut-être arriver à Bac+5, et même parfois des stages qui ont été annulés dans la foulée.
Oui, on a beaucoup parlé des L1 et c'est vrai que l'adaptation à l'université est beaucoup plus difficile quand on ne la connaît pas déjà de base. Mais on voit que ce n'est pas forcément que les L1. On a des étudiants vraiment de tous les niveaux qui viennent et ce n'est pas dépendant du niveau ou de l'âge ou de la maturité parce qu'on a entendu ça aussi. C'est vraiment pas ça qui est en question. C'est vraiment le distanciel et combien de temps et l'étayage social qu'il y a autour. Mais c'est vraiment pas une question de L1, L2, L3, Le phénomène des stages, effectivement, hein, c'est un gros problème pour eux. Ils ont peur de pas valider leurs années. Forcément, encore une fois, vous pouvez avoir un suivi psychologique toutes les semaines. Si vous voyez pas votre diplôme arriver ou votre avenir serein, forcément, ça ne peut pas compenser.
Le président de l'Université d'Angers, Christian Robledo, a défendu dans les colonnes de Ouest-France récemment un retour à la normale, en tout cas à l'échelle de l'université, avançant la possibilité de mettre en place un protocole sanitaire strict permettant d'accueillir tous les cycles. Vous partagez ce point de vue qui permettrait de mettre du baume au cœur à celles et ceux qui sont meurtris par ce contexte sanitaire et même les autres ?
Sans retour en présentiel, en fait, on peut mettre énormément de choses en place. Le moral des étudiants au global ne s'améliorera pas tant qu'on n'a pas un retour en présentiel. Et de tout niveau, et un peu plus qu'un jour par semaine, parce que même si un jour par semaine, c'est déjà bien, ça suffit largement pas, en fait, pour... pour leur repermettre un lien social, en fait. Vous avez vu votre classe ou votre promo un jour par semaine pendant 2 mois, vous les connaissez pas, et ça, c'est super important, en fait. Cet esprit de groupe, en fait, de rien que pouvoir dire cette partie-là du cours, j'ai pas compris, et d'avoir quelqu'un vers qui se retourner. C'est tout bête, mais en fait, c'est super important. Et ça, je pense qu'on s'en rendait peut-être pas forcément compte avant au niveau pédagogique. On avait des grandes idées sur la pédagogie en général. Mais en fait, ça, cette pédagogie qui se fait entre étudiants, elle est tout aussi importante.
C'est le nerf de la guerre, le retour à la normale.
Forcément. Après, nous, forcément, on a une vision biaisée. On voit que des étudiants. Donc oui, pour eux, le bénéfice, ce sera de revenir plus que de rester chez eux. Maintenant, j'ai pas la vision globale du pays. Donc voilà. Mais pour les étudiants, c'est clair que le bénéfice, il serait à revenir en présentiel.
Toujours à propos du suivi psychologique, vous pensez qu'il va devoir se pérenniser? On a vu des ateliers de sophrologie qui avaient été mis en place pour lutter contre l'anxiété et le stress à la fin du mois de janvier. Il faudra poursuivre, voire amplifier ces dispositifs dans les semaines et les mois qui viennent?
Oui, c'est assez évident. De toute façon, quand on regarde la courbe de demande en fait en psychologie et en termes de relaxation, de gestion stress, etc., elle est croissante sur les dernières années. Donc ça, c'est pas un phénomène qui va s'arrêter avec la crise. Quand bien même on serait tous vaccinés et qu'on pourrait tous ressortir, c'est quand même un phénomène qui existe. Alors on peut le voir le verre à moitié vide en se disant qu'il y a un mal-être étudiant qui monte d'année en année. On peut aussi voir ça comme une déstigmatisation aussi de ces problèmes psychologiques. Dont les étudiants parlent de plus en plus, en fait, osent de plus en plus en parler. Il y a probablement des deux. Après, c'est effectivement, nous, quand on demande des mesures, il y a pas mal de mesures qui ont été annoncées, on demande toujours que ce soit pérennisé, en fait, parce que ça ne va pas s'arrêter. Et quand bien même la crise s'arrêterait, les conséquences post-crise seraient encore là, et le phénomène sous-jacent de montée des demandes sera là de toute façon.
Et le sport aussi tient une place de choix dans le maintien de la bonne santé mentale des étudiants.
Vous vous adressez aux médecins du sport, donc forcément je vais vous dire que oui, évidemment, mais on le voit, on pousse nos étudiants qui justement se trouvent un peu isolés à aller au SUAPS, donc au concours de sport, qui sont faits en tout petit groupe, et on voit un réel bénéfice, faut aller voir au SUAPS, mais le sourire se voit sous le masque, clairement.
Un petit mot de conclusion pour celles et ceux qui nous écoutent, peut-être pour les encourager à vous solliciter s'ils sentent à un moment donné qu'ils perdent pied.
Oui, alors faut pas hésiter, beaucoup hésitent à passer un coup de fil, on sait que ça peut être un peu engageant quand on se trouve déjà en difficulté, on peut tout à fait écrire un mail et nous on vous rappelle derrière, on a plein de choses à proposer, même si c'est pas immédiat, on n'a pas la solution miracle à votre première consultation, mais au moins on peut vous orienter, on peut vous suivre, on peut vous trouver des outils pour vous aider à gérer le quotidien, donc faut vraiment pas hésiter, on a une équipe très sympathique. Donc voilà, il n'y a aucun souci à venir chez nous. C'est toujours gratuit et c'est même ouvert entre midi et deux pour faire entre les cours.
Merci Florence d'avoir répondu à nos questions. Vous l'aurez sans doute compris à travers cet entretien. Le SUMS est là pour vous aider, vous conseiller et vous prendre en charge si vous estimez en avoir besoin. Merci Florence et peut-être à bientôt.
Merci, à bientôt.
À la una, à las dos. Y a las tres. Un aplauso. A ver. Volvemos a repetir. Estaba conversando mi buen ojalá no me le coloque conversa a los participantes, por favor. Retomo. Y volvemos a jugar. Muchachos, vamos a hacer un concurso por 1 millón. Y básicamente se lo gana el que se vaya parando de manos. Va a ser muy fácil. ¿Listo? A la cuenta de tres. Ahora sí prepárense. Manos al frente, manos arriba. Van a pararse. Manos arriba todos. Manos arriba. Calacha, yo me le voy a subir las manos. Y a pararse de manos. Dure lo que dure. Si se pasa, no hay ningún problema. A la una. Hágale, muchachos. A las dos. Y a las tres. Va.
De retour dans la quotidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. À l'instant, c'était Brain Damage avec le titre Mouy Facile. On écoute tout de suite une interview réalisée par Paul de Syllab à Rennes. Il s'est entretenu avec donc Faustine Sternberg, membre de l'association SPLAN.
Aujourd'hui, on va parler d'enquête journalistique en Bretagne, notre belle région qui, hélas, cache bien son jeu sur certains sujets, en particulier l'industrie agroalimentaire et ses conséquences humaines, sociales et environnementales. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à dire. Les journalistes indépendants qui essaient d'enquêter sur ces questions sont souvent la cible d'attaques personnelles ou encore de ces fameux procès Bayon qui cherchent à taire l'information. Inès Léraud, tout comme Morgane Large, pour ne citer qu'elle, deux journalistes d'investigation en ont fait les frais de cette politique de censure. Et c'est dans cette optique de protection de ces journalistes et de leurs enquêtes qu'est née SPLAN, la première ONG d'enquête journalistique en Bretagne. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Faustine Sternberg, journaliste et membre de cette organisation. Bonjour Faustine.
Bonjour.
Alors avant toute chose, SPLAN, c'est donc une organisation gouvernementale dont l'objectif est de produire des enquêtes journalistiques d'utilité publique en Bretagne et dans le monde, et tout ça en français et en breton. Alors là j'ai fait une définition peut-être un peu sommaire de ce qu'est SPLAN, mais justement est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus précisément votre ONG ?
Eh ben, c'est exactement ça, hein. L'objectif de notre ONG ou association, puisque c'est la même chose, hein, c'est le même statut, c'est de financer, de réaliser des enquêtes, principalement sur la Bretagne, sur des sujets d'intérêt public qui peuvent être liés finalement à toutes les problématiques qu'on va rencontrer ici. Donc c'est vrai que l'agroalimentaire a une place importante en Bretagne, mais ça peut aussi être les sources d'énergie ou le lien entre secteur économique et politique. Donc c'est vraiment sur le modèle de Disclose, qui est notre parrain et qui nous accompagne dans le lancement de notre association, donc Disclose, qui en fait s'est fait connaître pour la révélation du scandale des armes françaises utilisées contre des civils au Yémen et qui réalise et accompagne de nombreuses enquêtes.
Justement, vous dites que SPLAN est parrainé par Inès Léraud et Disclose, donc l'une est journaliste d'investigation et l'autre un important média d'investigation. Il y a donc une idée assez forte du journalisme et ce que doit être ce métier. J'ai une question qui est peut-être un peu en deux temps, mais déjà, qu'est-ce que ça représente le journalisme et qu'est-ce que doit être ce métier pour vous et dans ce que véhicule SPLAN ?
Alors après, c'est vrai que ce que doit être ce métier, je pense personnellement en tout cas qu'il y a beaucoup de manières de le pratiquer, il n'y en a pas forcément une qui va être la bonne. Par exemple, la presse locale, elle est indispensable, autant que justement une presse d'investigation. Mais c'est vrai que là, ce que nous on veut développer, c'est vraiment l'investigation, l'enquête. Et dont la particularité, c'est de pouvoir prendre du temps, d'être dans le temps long sur des sujets qui peuvent être complexes et qui nécessitent de dévoiler des vérités que les acteurs ne veulent pas forcément qu'elles soient dévoilées. Et c'est pour ça que ça nécessite plusieurs mois d'enquête. Et donc du coup, c'est pour ça que ça nécessite aussi des fonds. Et qu'on a lancé un financement participatif pour pouvoir soutenir cette approche-là du journalisme.
Ben, justement, pour revenir un peu sur ce financement participatif, du coup, comme vous l'indiquez sur la page web, le modèle économique de votre ONG, elle est basée sur celui de Disclose. Donc les enquêtes sont financées par des dons sur le principe du financement participatif. Vous venez d'ailleurs de lancer la campagne de financement participatif, comme vous venez de l'indiquer. On mettra le lien avec le podcast de l'émission. Mais déjà, plus précisément, comment est-ce que ça fonctionne, ce type de modèle économique ? Est-ce que ce type de financement, ça pourrait aussi représenter à l'avenir l'indépendance plus ou moins du journalisme ?
Eh ben, là, ce qu'on prône, c'est que finalement notre indépendance, elle est liée à la source de financement qui sera celle des lecteurs en majorité. C'est la confiance des citoyens et des lecteurs qui va nous permettre de travailler. C'est si eux, ils nous soutiennent, s'ils ont envie de nous soutenir. Donc du coup, c'est sûr qu'on aura une indépendance qui est liée à cette source de financement. Et c'est vrai que peut-être que dans l'avenir, en tout cas, ça peut se développer ce genre de médias, puisqu'on le voit d'ailleurs en France, il y en a de plus en plus qui proposent effectivement d'autres sources de financement et d'autres pratiques. Je pense qu'il peut y avoir une complémentarité entre différents types de médias, puisque nous, justement, on va aussi s'appuyer sur les médias qui existent déjà et qui n'ont pas forcément le même modèle. Mais qui ont en fait une force de frappe importante parce qu'ils ont parfois des supports écrits ou un site internet avec des diffusions quotidiennes. Et donc du coup l'idée c'est que nous on va financer les enquêtes, mais on va pas forcément avoir la force de les publier à la même échelle que des médias. On va les publier sur notre site internet, mais on va en partenariat avec d'autres médias, elles seront publiées du coup dans des journaux locaux ou dans des journaux nationaux.
Du coup, ça sera sur n'importe quel support, en fait, les enquêtes qui vont être proposées. Ça peut être aussi bien écrit que radio, que télévisuel.
Pour l'instant, notre première enquête, elle sera sous format écrit. Mais les prochaines enquêtes, justement, on espère développer plusieurs supports. Parce que sur un même sujet, il peut y avoir autant une enquête écrite qu'un reportage audio-visuel. Ça permettra aussi de multiplier les partenariats.
Ouais, bah j'avais justement une question là-dessus, mais est-ce qu'il y a déjà des partenariats qui ont été mis en place avec certains journaux locaux ou nationaux ?
Alors, pour l'instant, c'est en cours. On est en train de travailler sur une enquête. On a une journaliste qui travaille sur l'enquête. Donc nous, on a un comité éditorial composé de 5 journalistes professionnels qui accompagnent bénévolement les enquêtes qui vont être réalisées. Et donc, justement, on a une journaliste qui travaille actuellement sur une enquête et du coup les partenariats sont en bonne voie parce que l'enquête devrait être publiée d'ici quelques semaines.
Donc ce plan, comme on le disait en début d'interview, comme vous le disiez, a pour objectif de produire des enquêtes journalistiques, mais plus précisément, comment est-ce que sont choisies ces enquêtes et comment est-ce qu'elles sont réalisées?
Alors justement, l'idée c'est qu'il y a un comité éditorial qui va être composé de 5-6 membres. Là, on est 5. Et tous les ans, un tiers de ce comité sera renouvelé. Il est composé uniquement de journalistes professionnels qui vont étudier les propositions de sujets, puisqu'on est ouvert vraiment à toute proposition, que ce soit de la part de journalistes ou de lanceurs d'alerte, de citoyens qui peuvent nous solliciter. Et ensuite, voilà, ça pourrait être des journalistes soit qui font partie de notre association, mais aussi qui peuvent être extérieurs à l'association et qui nous proposeront des sujets qui pourront travailler aussi comme ça en toute indépendance sur des thématiques qui demandent à être étudiées.
Donc ce sera que du bénévolat de la part des journalistes, il n'y a pas de salariat, du coup ce sont...
Alors si, justement, le bénévolat il est du côté du comité éditorial, mais le journaliste qui va travailler sur l'enquête, lui il sera salarié. Il sera salarié pendant toute la durée de l'enquête. Par exemple, s'il doit travailler à mi-temps pendant 6 mois, il sera salarié pendant cette période-là. Et c'est tout l'intérêt du financement participatif qu'on a lancé hier. L'idée c'est de pouvoir... l'objectif c'est d'atteindre 30 000 euros, c'est à peu près la somme qui permettrait de financer 3 enquêtes. Et donc du coup, c'est tout l'intérêt aussi de demander le soutien des gens qui peuvent nous aider. C'est de pouvoir aussi rémunérer un journaliste qui va travailler sur une enquête, de le rémunérer convenablement.
Oui, donc du coup, vous disiez, il y a un comité éditorial, donc vous faites partie, donc là, c'est du bénévolat. Il y a aussi un conseil d'administration. Et j'ai vu qu'il y avait aussi un conseil de surveillance qui vise à garantir l'indépendance de ce plan. Concrètement, quelles vont être ces tâches et qui est-ce qui le compose, ce comité de surveillance?
Alors, le comité de surveillance, il est composé des membres fondateurs de l'association qui sont... on est environ 10 personnes qui sommes soit journalistes, soit issus de la société civile et qui avons, on va dire, lancé le principe de cette association et qui ont un rôle un peu d'observateur sur le respect de la charte qui a été écrite et qui d'ailleurs est retrouvée aussi sur notre site internet.
J'avais une autre question, mais du coup qui est de l'ordre un peu de l'ancrage en Bretagne, ben, du moins de ce que moi je connais, de ce que j'ai pu voir, il n'y avait pas encore de médias exclusivement dédiés à l'investigation sur des thématiques régionales comme on peut retrouver dans le sud par exemple avec Mars Actu ou Le Poulpe en Normandie. Pourquoi rien n'existait sur ces thématiques avant ce plan ?
Eh bien, c'est vrai que c'est à déplorer qu'il n'existait pas de médias, d'associations, de médias dédiés à l'investigation, mais finalement, il n'est pas trop tard. Donc voilà, c'est l'occasion de remplir ce vide.
Et pour celles et ceux qui voudraient participer au financement participatif et au lancement de ce plan, où est-ce qu'on peut retrouver du coup tout ça ?
Donc du coup, c'est sur notre site internet splan.org, donc c'est splan.org. Il y a accès à toutes les informations sur l'association et puis au financement participatif qui se fait par la plateforme HelloAsso. Mais du coup, sur le site internet, on y a accès directement.
Ok, super. Bon, une petite dernière question avant de terminer l'interview, c'est si jamais on a un ou une lanceur d'alerte qui nous écouterait ou qui nous écoute, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter pour vous faire part d'une information ou d'un potentiel sujet ?
Bah, la même chose, ils peuvent aller sur notre site internet splan.org, sur lequel il y a un formulaire de contact. Et pour l'instant, on n'a pas encore mis en place, on va rapidement mettre en place une manière aussi que cette prise de contact puisse être la plus sécurisée possible. Pour pouvoir protéger aussi les sources éventuelles.
Okay. Eh bien, super, ça marche. Et ben, on mettra bien sûr le lien du site et de la campagne de financement participatif pour le lancement de ce plan avec le podcast de l'émission. Merci beaucoup, Faustine, d'avoir accepté notre invitation.
Ben, merci à vous, en tout cas.
Et on manquera pas sur Syllab et de partager les futures enquêtes de ce plan. Merci encore.
Nous remettrons également toutes les informations nécessaires sur la page de cette émission. Il va être, quant à nous, l'heure de nous quitter. Très bonne soirée à toutes et à tous. Portez-vous bien.